France Culture, Affaires étrangères, Christine Ockrent.
Bonjour à tous et bonne rentrée. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin pour la première émission de cette nouvelle saison d'Affaires étrangères. Nous allons parler d'un pays cher à beaucoup d'entre nous, un pays meurtri. Un pays épuisé, après un demi-siècle de désastres, depuis une guerre civile jusqu'à l'effondrement de son économie, depuis l'explosion d'un dépôt de nitrate d'ammonium le 4 août dernier en plein port de Beyrouth, jusqu'au coronavirus qui flambe à nouveau là-bas. Est-il possible non pas seulement de reconstruire le Liban, mais de le réinventer ? Voilà un État failli. Failli sur le plan économique, social, sur le plan moral aussi, tant le système confessionnel et l'oligarchie au pouvoir ont enfermé la population dans leur réseau clientéliste, favorisant la corruption, précipitant l'émigration, asséchant toute tentative de réforme politique qui mettrait à mal leurs privilèges. Il y a 3 semaines, Emmanuel Macron était à Beyrouth pour témoigner de la compassion de la France, alliée tutélaire, mais aussi pour presser les Libanais de forger, selon son expression, un nouveau pacte politique. Que s'est-il passé depuis ? Le tissu social a-t-il tenu ? La solidarité l'emporte-t-elle sur les clivages communautaires ? L'aide internationale va-t-elle dans le bon sens ? Les mouvements qui traversent la société civile, unis dans leur opposition au système en place, sont-ils en mesure de produire une solution de rechange ? Incurie, corruption, clientélisme, les accusations pleuvent. Où sont les réponses ? Comme promis, le président retournera à Beyrouth mardi prochain, 1er septembre, pour le centenaire de la proclamation de l'État du Grand Liban, qui se voulait un modèle de tolérance, d'équilibre entre les minorités dans la région. Aujourd'hui, au-delà des admonestations, quel rôle pour la France et pour l'Europe, alors que leur influence dans un Moyen-Orient fracassé n'a cessé de diminuer. C'est ce que nous allons explorer ce matin grâce à vous. Dominique Hédé, bonjour, vous êtes romancière, merci d'être avec nous par téléphone depuis Beyrouth, ainsi que Sahar Al-Attar. Sahar, vous êtes rédactrice en chef du magazine économique Le Commerce du Levant. Avec nous aussi Karim Elimil Bitar, vous êtes directeur de recherche à l'IRIS et vous appartenez bien sûr au fameux Institut de sciences politiques de l'Université Saint-Joseph à Beyrouth. Avec nous par téléphone, merci, docteur Kamel Mohana, vous êtes le président fondateur de l'association AMEL International, coordinateur général du collectif des ONG arabes et libanaises sur le terrain. Et je n'oublie pas Xavier Baron. Xavier Baron, vous avez été longtemps le responsable de l'agence France Presse pour le Moyen-Orient. Dominique Hédé, je commence avec vous. Quelle est l'humeur, quelle est l'ambiance ce matin à Beyrouth dans un décor, un climat qu'on imagine dévasté et en pleine flambée du coronavirus à nouveau?
Oui, absolument. Vous savez, il y a 10 minutes, une amie psychanalyste m'a appelée, sa maison lui était littéralement tombée sur la tête et elle me disait en 2 mots ce que ressentent la grande partie des Libanais. Elle me disait « Ne faisons pas semblant d'être en vie ». Elle a consacré sa vie à désamorcer ou déminer les conflits intérieurs et elle en vient à dire aujourd'hui nous sommes tous des tueurs en puissance. C'est vous dire qu'il y a un degré de désespoir extrêmement grave dans ce pays. Ceci étant, il y a aussi, et c'est peut-être ce qui lui donne encore la force de dire qu'il y a en soi un tueur, il y a aussi beaucoup de vie, il y a aussi beaucoup de solidarité, il y a aussi, et malgré cette dévastation du pays par un pouvoir que vous avez parfaitement décrit, je ne vais pas vous paraphraser, un pouvoir totalement corrompu, il reste sous cette chape un tel montant d'énergie, de générosité, d'inventivité, qu'on ne peut pas baisser les bras. Alors, quelle est la solution? Je serais bien en mal de vous répondre en deux mots. Mais il y a une opposition qui est encore parcellaire, mais qui est ainsi en train de s'unir, et à toute allure. Il n'est pas simple de créer de la cohérence à partir d'une réalité qui a été aussi méthodiquement divisée par les chefs de clan. Donc il faut un peu de patience vis-à-vis de cette opposition qui est vraiment en train de mobiliser toutes ses forces pour former un front uni, c'est-à-dire une sorte d'union sacrée qui pourrait devenir le remplaçant de ce pouvoir. Sous quelle forme? Sous la forme suivante, qui fait l'unanimité parmi tous les pouvoirs, qui est l'exigence ou la demande d'un gouvernement provisoire avec pouvoirs spéciaux qui lui permettrait de légiférer en dehors du Parlement sur une période d'au moins 18 mois, durant laquelle il pourrait donner les preuves de son efficacité, de son indépendance, de son intégrité, de tout ce que le pouvoir actuel n'a pas fait pendant 30 ans.
Dominique, je vous interromps, nous avons amplement le temps de revenir sur ce scénario politique avec vous et avec nos autres amis libanais qui sont avec nous par téléphone ce matin, mais restons à la situation sur le terrain avec vous, docteur Mohanna. Oui. Je rappelle que vous êtes le président fondateur de Amel, qui est l'une des plus grandes ONG au Liban. Vous coordonnez d'ailleurs le collectif des ONG libanaises et arabes. Quels sont les besoins sur le terrain ce matin? Docteur Mohanna. Je crois que nous avons un problème provisoire pour joindre le docteur Mohanna qui est... sur le terrain ce matin à Beyrouth et on imagine la scène. Karim Émile Bitar, merci d'être avec nous. Reprenons le fil donc du scénario politique évoqué à l'instant par Dominique Aidé. On se souvient en octobre dernier de l'immense soulèvement d'une société civile qui paraissait, les jeunes surtout, oublier ces clivages confessionnels dont le Liban est friand depuis si longtemps. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui?
Il existe toujours une réelle volonté de transcender ce système communautaire, de refuser les assignations à résidence identitaire qui sont une plaie dont le Liban a souffert depuis sa création, d'aller vers un système authentiquement citoyen avec un lien direct entre le citoyen et l'État. Cela dit, les embûches seront nombreuses sur le terrain. Même les ONG qui font un travail remarquable sont confrontées à ce système confessionnel qui est le principal obstacle à la lutte contre la corruption, ce qui empêche la demande de compte, la reddition de compte, la redevabilité, c'est précisément ce système confessionnel. Les corrompus vont s'abriter derrière leurs leaders communautaires. Le communautarisme devient en quelque sorte le dernier refuge des gredins. Chacun exige que les corrompus des autres communautés soient poursuivis avant lui. Aujourd'hui, l'impératif, c'est d'échafauder un nouveau pacte social qui permettrait d'apaiser les angoisses existentielles des uns et des autres, de les inciter à ne plus se chercher en permanence des protecteurs en dehors des frontières libanaises. Les uns se tournaient autrefois vers la France et vers la Grande-Bretagne. Au 19e siècle, c'était les Druzes qui se tournaient vers la Grande-Bretagne, les Maronites qui se tournaient vers la France. Aujourd'hui, on a ce même scénario avec les sunnites qui regardent vers l'Arabie Saoudite, les chiites qui regardent vers l'Iran. Il est absolument nécessaire de construire un État fondé sur la citoyenneté, de transcender ce système communautaire. Et pour y parvenir, on compte beaucoup sur cette jeunesse libanaise qui s'est aujourd'hui mobilisée, sur de nouveaux partis citoyens qui sont en train d'émerger, qui refusent le communautarisme, qui refusent le clientélisme. Mais pour ce faire, il faut parvenir à court-circuiter ce système clientéliste bien organisé, bien huilé, très résilient. Ce sont eux qui sont résilients beaucoup plus que cette société. On a trop utilisé ce terme, il a trop été galvaudé. Et cela passe, comme l'a dit Dominique, par une union sacrée des forces d'opposition.
Karim, hier, le président Macron recevait la presse présidentielle à l'Élysée à Paris, et je le cite, voici ce qu'il a déclaré. « Si nous lâchons le Liban dans la région, si en quelque sorte nous le laissons aux mains des turpitudes des puissances régionales, ce sera la guerre civile. » Qu'en pensez-vous ?
Je pense que ce n'est pas du tout exagéré. On a vu la rapidité avec laquelle des pays comme la Libye et le Yémen sont descendus aux enfers. Il a suffi de quelques mois pour que ces pays deviennent la proie des guerres par procuration régionale. Il y a tellement de puissances qui sont à couteau tiré dans la région qu'il s'en faut de peu pour que le Liban, en effet, s'embrase de nouveau. Il est impératif que la France continue de jouer ce rôle. On entend des critiques partout en France qui apparaissent totalement décalées vu de Beyrouth, même ceux qui n'apprécient pas particulièrement le président Macron se réjouissent du fait qu'il vienne au Liban. Il a un rôle à jouer. La France est la seule puissance qui parle à toutes les parties politiques au Liban, contrairement aux États-Unis qui ostracisent certaines factions. Donc cette action est absolument indispensable, l'action de la France et de l'Union européenne. Les États-Unis ne peuvent pas jouer ce rôle-là, les autres puissances non plus. Les puissances régionales ont chacune leurs affidés régionaux, leurs affidés locaux. Donc il est impératif que la France joue ce rôle. En effet, il y a une menace existentielle qui pèse aujourd'hui sur le Liban, et il ne faut pas accepter les critiques intérieures en politique française qui accusent la France d'ingérence au Liban. Cela apparaît totalement surréaliste et décalé.
Xavier Baron, vous publiez ces jours-ci aux éditions Taillandier un très précieux livre, les 100 questions qu'on peut se poser, et il y en a beaucoup plus qu'une centaine, à propos du Liban. Rappelez-nous la spécificité de ce système qui est à la fois confessionnel et politique et qui établit un partage des pouvoirs entre les communautés, des communautés dont, en fait, La fondation remonte bien au-delà de 1920, bien au-delà de la constitution, de la proclamation par le général Gouraud à l'époque de l'État du Grand Liban.
Oui, le communautarisme au Liban a plusieurs siècles. Il a été institutionnalisé en quelque sorte il y a deux siècles, à la suite d'incidents qui se sont déroulés dans la montagne et où un statut a été élaboré et adopté du temps des Ottomans, et qui pour la première fois donnait aux communautés, aux six principales communautés, des responsabilités bien au-delà de la simple religion, d'administration financière et autres. Donc c'est un l'État libanais structurellement repose sur les communautés aujourd'hui. Il faut peut-être déjà dire que le communautarisme au Liban n'a rien à voir avec celui de la France. En France, on a parfois un communautarisme qui cherche à pervertir ou à circonvenir les lois de la République. Au Liban, c'est l'inverse. L'État repose sur les communautés structurellement. Par conséquent, ce système, au début, visait à faire vivre les communautés ensemble, en bonne entente. Un des penseurs et un des pères de la constitution libanaise, Michel Chia, disait que c'était un pays de communautés associées. Donc c'était vivre ensemble. Mais il y a eu une dérive, il y a eu une perversion qui, surtout après la guerre, disons après 1990, les fameux accords de Taif, qui ont fait que ce système est devenu un moyen pour de plus en plus prononcé pour un certain nombre de partis ou de camps politiques ou de clans de se servir de l'État et non plus de servir l'État.
Ce qui est d'ailleurs révélateur, Xavier Baron, c'est que le dernier recensement de la population remonte à 1932. Donc, oui, pour des raisons politiques, on ne veut pas tenir compte obstinément de l'évolution démographique au Liban qui, aujourd'hui, on l'imagine bien, se traduirait par une très très forte majorité chiite qui serait très spontanément sous la coupe du Hezbollah. Expliquez-nous ce qu'est le Hezbollah.
Alors, effectivement, il y a cette question de recensement depuis 1932, donc il n'y en a pas eu, parce que les postes, les hautes fonctions de l'État étant réparties théoriquement selon l'importance de chaque communauté, un nouveau recensement ferait apparaître que les chrétiens ne sont pas plus majoritaires et que les chiites ont pris beaucoup d'importance. Donc on ne fait plus de recensement, et le système fonctionne sur la base non pas démographique mais sur la base d'un accord pour qu'il y ait 50-50 chrétiens musulmans, ce qui ne correspond plus à la réalité, mais ce qui est censé permettre aux communautés de vivre, les chrétiens craignant par-dessus tout, évidemment, que si c'était la règle de la majorité, les musulmans, je crois que c'est en gros 30-30 sunnites chiites, que ce soit que la charia, par exemple, s'impose et tout, ce qu'ils refusent. Donc il n'y a plus de recensement. C'est une entente. Alors le Hezbollah, là-dedans, c'est inséré après l'invasion israélienne du Liban en 82. Le Hezbollah n'existait pas avant. Oui. Donc c'est un mouvement chiite, alors formé, alimenté, armé, financé par l'Iran, qui a pris une importance considérable, jusqu'à devenir aujourd'hui une force militaire mieux équipée que l'armée libanaise.
Et une force militaire dont l'Iran se sert en Syrie depuis des années.
Absolument. En contrevenant les dispositions du gouvernement libanais auquel appartient le Hezbollah, puisqu'il y a une décision du temps du président Sleiman qui était de dire le Liban ne participe pas aux conflits régionaux. Or, on a vu ce qui s'est passé en Syrie.
Bien sûr.
Donc, effectivement, le Hezbollah suit sa propre règle et suit ses propres volontés.
Et on a vu d'ailleurs ces derniers jours Nasrallah, donc l'émir, enfin le chef religieux et politique du Hezbollah, mettre en cause les États-Unis, disant en gros que c'est la main de l'Amérique, je le cite, derrière les troubles récents. Mais je vous propose, puisque nous avons réussi à joindre le docteur Mohanna, de vous écouter. Kamel, bonjour. Je rappelle que vous avez fondé Amel, qui est une ONG extrêmement active au Liban, une ONG, je le précise, non confessionnelle, et vous êtes aussi le coordinateur du collectif des ONG libanaises et arabes. Quelle est la situation ce matin sur le terrain et quels sont vos besoins ?
Ce qui arrive au Liban, c'est une catastrophe. Après une crise économique et sociale, Covid-19, il y a le séisme à Beyrouth, le port avec 200 morts, une vingtaine de disparus, 6500 blessés, dont 1000 dans un état grave, 300 000 qui ont été déplacés, beaucoup de maisons endommagées ou détruites. Alors maintenant, on a besoin avant tout au niveau de la santé d'une aide urgente, que soit pour réhabiliter les hôpitaux, soit endommagés, soit détruits, les centres de santé, de l'aide alimentaire, au niveau aussi de la santé mentale, l'éducation, mais aussi il faudrait le port de Beyrouth et réhabiliter ou reconstruire les maisons détruites. Alors, ce qui fait que maintenant, et le Liban qui vit, on était avant cette crise à un tiers de la population au-dessus du seuil de la pauvreté, maintenant on est à 55%, dont 22% qui sont dans une pauvreté extrême. Et aussi, on a 1,5 million de réfugiés syriens, 400 000 palestiniens, ce qui fait que le Liban, maintenant, a besoin de ses amis, a besoin des Libanais, que les Libanais soient solidaires entre eux. Et on voit ces symboles d'autorité partout maintenant, avec la diaspora, mais aussi avec nos amis, la visite du président Macron, c'est la deuxième fois. Mais le Liban, maintenant, c'est comme un malade aux soins intensifs. Maintenant, c'est le temps de soigner le malade et après, on demande pourquoi il est malade. On a besoin de tous nos amis ici au Libanais. Il faut qu'ils travaillent tous ensemble. Il faut qu'ils soient solidaires parce que le Liban, c'est un pays unique dans le monde. C'est le seul pays où on est tous des minorités. C'est un symbole de coexistence entre religions. Monsieur Karim, avant moi, il a expliqué, Monsieur Xavier aussi, la situation dans le pays. Je crois qu'il faudrait, ces modèles existent dans le monde. Et là, on est en état de, franchement, on a peur de l'effondrement. Monsieur Adrien a déjà parlé de ça. On parle de la guerre civile. Mais il faudrait justement maintenant éviter tout ça avec entre Libanais d'abord et aussi avec nos amis. Mais le Liban, comme vous le savez, que je l'avais déjà dit avant, c'est le laboratoire et le miroir de la région. Tous les problèmes de la région ont une place dans ce pays. Et moi, je suis du sud du Liban, que vous connaissez bien. Ma maison a été détruite 2 fois par Israël. Cette région, il n'y aura aucune stabilité sans qu'il y ait une solution juste au problème palestinien. Et là, il y a les chefs qui sont responsables au Liban. Ils ont tous des amitiés avec l'extérieur. Et souvent, au lieu d'utiliser cette amitié pour l'intérêt du Liban, c'est souvent aux dépens du Liban. Alors, il faudrait qu'on travaille tous pour un État civil, démocratique, non confessionnel. Et il y a déjà ce soulèvement du 17 octobre. La jeunesse, les filles, les dames, derrière le drapeau libanais, son slogan confessionnel, ils veulent leur dignité. Et je crois qu'on a déjà une opinion publique. Il y a des ONG comme Amel, non confessionnel, qui est international, qui aussi œuvre pour la dignité humaine. Je suis optimiste malgré tout ce qui se passe maintenant à cause de la jeunesse dans ce pays, et surtout les filles. Ils sont armés de valeurs de justice sociale, de démocratie et de liberté. Évidemment, nous sommes au Moyen-Orient. Il y a tous les problèmes que vous connaissez. Et tout le monde intervient ici. Et en Syrie, il y a une guerre planétaire. Aussi, tout le monde intervient. Mais il faudrait, je crois, pour nous les Libanais, qu'on soit solidaires maintenant pour reconstruire notre pays, avoir le soutien de nos amis. Alors, et ça se manifeste déjà avec la deuxième visite de M. Macron et beaucoup d'autres amis. Mais il faudrait aussi œuvrer pour un État civil, un État démocratique, où il y a des citoyens. Aucun de nous n'a choisi sa famille, sa nationalité, sa religion. Ce sont des choses qu'on a héritées. Ce que fait Amel, qui joue le rôle de catalyseur maintenant au Liban et ailleurs. Et comme je l'ai dit, je le répète, le problème principal, il ne faut jamais l'oublier, je suis médecin, le médecin qui ne fait pas un bon diagnostic donne un mauvais traitement. Le problème principal dans cette région, c'est le problème palestinien. Aucune stabilité au Liban s'il n'y a pas une solution juste au problème palestinien. Monsieur Lieberman, quand il était ministre des Affaires étrangères, il a menacé d'expulser 1,5 million de Palestiniens des 48. La moitié viendront au Liban. On a maintenant 1,5 million de Syriens. Et là aussi, le Liban a offert un modèle de solidarité.
Oui. Mais ça prouve bien, Kamel Mohanna, docteur Mohanna, pardon, je vous interromps, mais ça prouve bien à quel point, et merci pour ce témoignage et cette analyse, et ça prouve bien à quel point les problèmes enracinés au Liban, et vous l'avez dit, sont ceux de toute la région, ce sont des problèmes dont les solutions paraissent à si long terme. Sarah Al-Attar, merci d'être avec nous par téléphone. Vous dirigez la revue Commerce du Levant. J'imagine que la publication est interrompue pour toutes sortes de raisons, et vous appartenez à cette jeune génération. Je crois que vous avez 3 jeunes enfants. Comment réagissez-vous au climat décrit par nos amis et quelles sont vos priorités à vous au jour le jour ?
Écoutez, c'est très difficile parce que la situation au quotidien, c'est des crises qui s'ajoutent sur des crises en continu. La crise économique était déjà très violente avant l'explosion du port et maintenant ça rajoute une couche avec le Covid. La crise que vit le Liban est multiple, avec des dimensions multiples. Alors on a une crise de la dette, on a une crise du change, on a une crise sociale et économique, on a une crise bancaire inédite. L'ampleur des besoins, je veux dire, avant la catastrophe, on estimait déjà le Liban avait besoin de plus de 25 milliards de dollars pour espérer remettre son économie sur les rails. Aujourd'hui, avec la catastrophe du port, On a obtenu, enfin, l'aide internationale s'est mobilisée, mais on parle encore d'une aide humanitaire d'urgence, c'est-à-dire 300 millions de dollars ont été alloués, mais là on parle des besoins primaires, c'est-à-dire médicaments, alimentaires. Aujourd'hui, la question, elle est comment on se relève après ça. C'est-à-dire, il y a maintenant deux étapes. Il y a la reconstruction de ce qui a été détruit, et puis il y a la reconstruction de l'économie.
Il faut quand même préciser, Sarah, je vous interromps, mais précisons quand même qu'il n'y a pas de budget au Liban depuis 11 ans. La devise a perdu au moins 80% de sa valeur. On a vu les démêlés de la Banque du Liban avec des gens qui exigent leurs économies et qui ne les obtiennent pas. Des tractations avec le Fonds monétaire international qui ont été interrompues parce qu'il n'y avait aucune espèce de garantie sur la destination des fonds. Donc, quelle peut être la démarche pour remettre un cadre à un système économique qui est totalement... délabré.
D'abord, il faut tirer les leçons de l'échec. C'est-à-dire, il faut accepter et reconnaître que ce qu'on est en train de vivre maintenant, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas un complot mondial contre le Liban. C'est aussi la conséquence de politique économique, d'inertie politique, de corruption, d'incompétence qui gangrène le système libanais. Donc aujourd'hui, face à l'ampleur de la crise, croire qu'on va prendre les mêmes et recommencer et que ces gens-là qui ont été incapables d'empêcher la crise alors que les signes était là, évident, il suffit de lire tous les rapports des institutions internationales. Enfin, faut pas oublier que les réformes structurelles qu'on demande aujourd'hui au Liban, c'est les mêmes qu'on demande depuis 20 ans et que le système libanais a été incapable de mettre en œuvre. Donc il faut aujourd'hui reconnaître cette réalité, que ce système-là est incapable de diriger le pays. Il est incapable de mettre en œuvre les réformes parce qu'en fait, ça consiste pour lui à scier la branche sur laquelle il est assis. C'est-à-dire la dette publique, la corruption... le clientélisme, c'est ce qui fait vivre le système confessionnel libanais. Donc aujourd'hui, demander à ce système de réformer ça, de lutter contre la corruption, alors que c'est ce qui le fait vivre, c'est impossible.
Oui, mais est-ce qu'il y a un système de rechange ? Est-ce qu'il y a un système de rechange ?
Il faut le trouver parce que nous n'avons pas le choix. Et c'est ça qui est un peu, et c'est pour ça qu'on est un peu schizophrène dans cette phase, et surtout nous qui travaillons un peu dans l'économie, parce qu'évidemment les chiffres font peur. On a l'impression que la tâche est tellement gigantesque que personne n'y arrivera. Mais quand on part de la certitude que ce système-là, ces gens-là, il est certain qu'ils ne pourront pas. Et d'ailleurs, on a bien vu, vous avez parlé des négociations avec le FMI, elles se sont heurtées au Parlement, c'est-à-dire que le gouvernement n'a pas réussi à s'imposer face à un gouvernement qui était pseudo de technocrates et donc d'indépendants et de gens pseudo compétents, en tout cas plus compétents que les précédents. Ils n'ont pas pu mettre en place les réformes parce qu'ils se sont heurtés au système politique et au Parlement. Donc en partant de ce constat, aujourd'hui on doit se dire que nous n'avons plus le choix. Nous devons trouver une alternative et cette alternative, c'est une opportunité énorme pour le Liban. C'est terrible de dire ça, mais on a l'impression parfois qu'il faut toucher le fond pour pouvoir remonter. Et là, aujourd'hui, on a touché le fond. C'est-à-dire, le Liban, il a touché le fond. Si cette crise n'est pas catalysée, ne devient pas une opportunité pour qu'enfin le Liban sorte ou change de système et innove, et oui, évidemment, ça nous paraît impensable, il n'y a pas de leader, qui sont cette société civile, qu'est-ce qu'il représente. Et puis, il y a aujourd'hui, face à l'ampleur du drame social, des difficultés sociales des Libanais, il y a évidemment, ça fait 20 ans qu'on est privé d'État, qu'on n'a pas de services de base, qu'on n'a pas d'électricité, qu'on n'a pas d'eau et qu'on a toujours eu tendance à aller chercher nos zaïms traditionnels ou nos chefs communautaires pour subvenir à ces besoins-là. Aujourd'hui, plus que jamais, les plus démunis, naturellement, pour faire vivre leur famille, vont aller chez leurs zaïms et leur dire « aidez-nous parce qu'il n'y a pas d'État ». Et on le voit aujourd'hui dans la catastrophe du port. C'est les gens, les ONG qui sont descendus aider les gens pendant que l'État était totalement absent. Alors forcément, si on laisse la situation pourrir comme ça, le risque est de revenir vers plus de clientélisme et plus de communautarisme et plus de confessionnalisme. Donc il faut absolument saisir ce momentum pour changer la donne et pour dire plus que jamais, l'État est une nécessité pour le Liban. L'État on peut pas se passer de l'État, et aujourd'hui encore moins. C'est-à-dire, ce qu'il faut, c'est construire un État fort. Or, l'État fort est antinomique avec les intérêts des chefs communautaires. Donc, on peut pas demander aux chefs communautaires de construire un État fort. Donc, il faut absolument aujourd'hui, et moi je rejoins Madame Hédé qui a parlé au début, il faut absolument aujourd'hui pousser pour un gouvernement de transition avec des pouvoirs législatifs, parce que on peut pas donner. C'est pas une question de technocrate ou de compétence, c'est de donner l'indépendance et la liberté à ce gouvernement de redonner confiance aux Libanais en l'État, de leur montrer qu'un autre modèle possible, que le seul recours n'est pas sa confession, n'est pas son chef communautaire, que l'État peut être un recours et peut être garant de la sécurité et de l'intérêt général.
Sahar, restez en ligne avec nous, parce que justement... Restez en ligne avec nous, s'il vous plaît. Pardon, je vous interromps, parce que je voudrais précisément demander à Dominique Hédé. Je rappelle, Dominique, que vous êtes romancière. Donc, c'est aussi votre imagination qui s'exprime, et pas seulement l'analyse qui est la vôtre, très précise, de la situation politique au Liban. Vous étiez, je crois, à la résidence des Pins, la magnifique résidence de l'ambassadeur de France à Beyrouth, lorsque le président Macron était sur place le 5 août dernier. Il revient à Beyrouth mardi prochain. Il avait insisté pour qu'il y ait un nouveau pacte politique. On imagine bien que ce n'est pas en 3 semaines que ce nouveau pacte a pu se cristalliser. Qu'attendez-vous du président français lorsqu'il revient mardi prochain? C'est une mission impossible, autant pour lui que pour vous.
Écoutez, moi je vais totalement dans le sens de ce qui vient d'être dit par Sahar et par Karim Bitar, c'est-à-dire que en réalité, il n'y a pas d'État. L'État a disparu avec la guerre. Donc cela fait 30 ans que la société vit toute nue, à la merci de ces 6 chefs de communauté. Quand j'ai rencontré très rapidement, Karim était présent ce jour-là, le président Macron, ma première phrase a été de lui dire « ce n'est pas moi qui devrais être là ». Et j'ai cité le nom de quelqu'un qui s'appelle Charles Bennahas. Pourquoi? Pas pour soutenir un homme en particulier, mais pour soutenir un programme qui se construit depuis des années. C'est un économiste extrêmement sérieux qui a déjà été ministre et qui a démissionné pour les raisons d'intégrité qui sont les siennes. Et cet homme a un projet qui me paraît être le seul, à l'heure qu'il est, qui puisse entraîner le mouvement, non pas que lui puisse individuellement entraîner, mais que son programme, avec tous les partis qui travaillent, je pense au Bloc National, à Beyrouth Matinati, au PC, à Ali Haki, à Tahalouf Watani, il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup, mais est-ce qu'il n'y en a pas trop, justement? Parce que on voit bien, et c'est pas le propre, Dominique, c'est pas le propre du Liban. On voit un peu partout.
Je voudrais juste insister sur cet État dont il parle. Cet État, c'est un État affranchi des communautés. C'est donc un État qui se déclare laïque. Et ce n'est pas une déclaration révolutionnaire. La Constitution le veut. Il s'agit d'appliquer ce qui est au départ l'idée d'un pouvoir qui va s'exercer en dehors des pouvoirs communautaires, qui doivent rentrer chez eux. Alors vous me direz, comment? Et ça, c'est une question extrêmement difficile. Sinon, que nous constatons tout de même que ces 6 branches de ce tronc pourri sont tout de même très délabrées. Et que on pourrait parier, c'est un pari, il a peu de chance, c'est entendu. Mais comme tous mes amis autour de cette émission, je pense qu'il nous faut jouer le peu de chance qui reste. Comme disait le médecin, on est en salle de réanimation, il ne faut pas baisser les bras jusqu'à la dernière minute. Alors qu'est-ce que c'est que ce coup de théâtre à l'intérieur de ce délabrement général? C'est l'instauration d'un État laïque qui viendrait avec des pouvoirs spéciaux, je me répète parce que je voudrais que le président Macron m'entende, avec des pouvoirs spéciaux sur une période de 18 mois et qui ferait appel à toutes les compétences. On les connaît, il y a des femmes et des hommes de très grandes compétences dans ce pays qui peuvent occuper des portefeuilles et les porter avec toute l'intégrité et la rigueur qui ont fait défaut pendant 30 ans et redonner aux Libanais non seulement le droit à la dignité, mais aussi le droit de se séparer de ces patrons qui les ont confisqués, qui ont même confisqué leur tête. Nous savons qu'à l'heure qu'il est, la société libanaise veut une chose et n'y arrive pas. Elle veut son contraire. Pourquoi ? Parce qu'elle a peur. Elle veut un nouveau pouvoir. Elle veut se débarrasser de tous ces gens-là. Et en même temps, prise de frayeur, elle revient à son réflexe communautaire au moment où elle va mettre son vote dans l'urne, de peur de n'avoir plus aucun recours. Mmh. Il faut donc un recours fort, le recours d'un État qui, sans compromission aucune et sans concession communautaire aucune. Christine, je voudrais ajouter un dernier mot.
Allez-y, allez-y.
Que j'abuse de mon temps de parole.
Non, je vous en prie.
Cet État laïque, en réalité, si l'on constate, et c'est ce que disait très justement le médecin tout à l'heure, si l'on constate l'état de la région, quelle autre solution raisonnable peut-on apporter à ce grand blessé qu'est le Moyen-Orient ? Quelle autre solution raisonnable sinon celle de l'État laïque ? C'est-à-dire finalement revenir à ce qu'il y avait de mieux dans un projet politique qui a mal tourné et que j'appelle le projet israélien, qui aurait dû être l'avant-garde de ça et qui a été l'arrière-garde. C'est-à-dire qu'il a poussé tout le monde vers l'instinct communautaire, vers le morcellement, vers le démembrement. Aujourd'hui, il faut tous se ressaisir ensemble, tous, c'est-à-dire tous les pays de la région, Israël en tête, pour renoncer à ces identités communautaires qui sont, comme le disait Marouf, meurtrières, mais plus que cela, qui risquent d'entraîner des guerres civiles contre, qui pourraient devenir mondiales si on continue comme ça.
Oui.
C'est vrai que le cri d'alerte du président Macron nous permet, nous, d'ajouter nos voix à ce cri d'alerte et de dire qu'il faut un coup de théâtre aujourd'hui et arracher ce pouvoir à cette partie gangrénée du gouvernement.
Karim Émile Bitar, ce coup de théâtre auquel appelle avec éloquence Dominique Hédé, ce coup de théâtre, ce n'est pas le président français qui peut le provoquer, et c'est encore moins la France, pour toutes sortes de raisons évidentes, qui peut créer un État laïque au Liban. Donc, quel est le scénario réaliste pour que il y ait de cette effervescence et de cette désolation un système de rechange? Est-ce que c'est possible?
Oui, c'est bien évidemment à nous, Libanais, de prendre le bateau entre nos mains, de ne pas laisser les interférences étrangères, quelles qu'elles soient, venir pervertir ce processus. S'il doit y avoir une évolution vers un État laïque, elle ne doit pas être imposée par le haut, il ne doit pas s'agir d'une laïcité autoritaire, mais d'un processus qui se fasse accepter par l'ensemble des citoyens libanais. Et par ailleurs, je crois qu'il ne faut pas dépolitiser le débat. Aujourd'hui, quand on parle de reconstruction, il y a toujours un risque qu'on ait les bailleurs de fonds d'un côté, les ONG de l'autre. Les ONG font un travail absolument remarquable sur le terrain. Amel, du professeur Kamel Mohana, est l'une des plus fantastiques ONG, pas seulement au Liban, mais dans l'ensemble du tiers-monde. Mais aujourd'hui, on voit émerger énormément de petites ONG qui n'ont pas véritablement de crédibilité et qui veulent se poser en interlocutrice de la communauté internationale. Donc je pense de mon côté qu'il est nécessaire qu'à côté de ces ONG qui sont pleines de bonnes intentions, il y ait une réappropriation du processus politique et que réémergent aussi des syndicats. Les syndicats ont été phagocytés ces 30 dernières années par cette oligarchie, cette classe politique. On les a vidés de leur substance, on les a cooptés. Et aujourd'hui, l'une des bonnes nouvelles, c'est à côté de ces partis citoyens qu'a évoqué Dominique Hédé, il y a aussi des nouveaux syndicats indépendants qui sont en train de naître. L'Ordre des avocats de Beyrouth a élu un bâtonnier indépendant après la Révolution. Il y a un club des juges qui s'est fondé, qui est un peu l'équivalent du syndicat de la magistrature en France. Il y a des entrepreneurs, des industriels, des ingénieurs,
ingénieurs qui sont en train de recréer des syndicats indépendants vis-à-vis des forces de l'establishment. Donc si on parvient à faire travailler ensemble les partis citoyens, des corps intermédiaires, des syndicats indépendants, des citoyens libanais de toutes les communautés et de toutes les régions pour créer une sorte de conseil citoyen qui deviendrait un interlocuteur crédible pour la communauté internationale, car le président Macron et beaucoup d'autres ont pris acte que cette classe politique était délégitimée, qu'elle n'avait plus la confiance du peuple. Emmanuel Macron a parlé de régime libanais, ce qui était une façon de le délégitimer. Il ne parle même plus de classe politique ou de système. On parle de régime, comme on parlerait de régime syrien ou de régime irakien à l'époque de Saddam. Donc on a besoin de nouveaux interlocuteurs. Il ne faut pas que ce soit uniquement des ONG, il faut que ce soit de nouveaux partis politiques et il faut que ce soit aussi des syndicats, de nouveaux élus, qui aient une certaine représentativité. Donc l'enjeu aujourd'hui pour parvenir à ce nouveau pacte social qu'on parle tant, dont on parle tant, c'est qu'il y ait une plateforme commune. Il n'y aura pas forcément d'accord sur toutes les questions. Il y aura toujours des nuances sur la question des armements du Hezbollah, sur la question des politiques économiques et sociales. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui nous rassemblent. Il y a toute une jeunesse aujourd'hui qui est déterminée à transcender le communautarisme, à aller vers beaucoup plus de justice sociale, vers un nouvel ordre économique, vers une économie qui ne serait plus une économie de rente, mais qui serait orientée vers la productivité, vers l'économie du savoir, vers une redistribution des richesses, vers un système qui ne serait plus axé sur la financiarisation, mais vers l'agriculture et l'industrie. Et je crois qu'il y a quand même des ressources humaines sur lesquelles il faut capitaliser. Le plus grand risque que je vois aujourd'hui, c'est l'immigration d'une grande partie de la jeunesse et des classes moyennes.
Justement, Sahar Al-Attar, je voulais avec vous en venir à ce point-là. C'est que le risque, c'est que le Liban soit saigné à blanc par une émigration des forces vives, des gens de votre génération, quelle que soit leur religion, leur communauté, des gens éduqués, mais qui sont totalement découragés, appauvris. Kamel Mohanna nous rappelait qu'il y a maintenant plus de la moitié de la population qui est en dessous du seuil de la pauvreté. Donc, comment est-ce que votre génération résiste, peut résister à la tentation de l'émigration?
C'est pour ça qu'il est absolument nécessaire d'avoir immédiatement un gouvernement pour stabiliser la situation économique. Alors, l'immigration n'est pas un phénomène nouveau, c'est même le modèle, le modus operandi qu'a mis en place cette classe politique, qui consiste à exporter les ressources humaines, à exporter les jeunes, en échange des flux financiers qu'ils vont transférer dans ce pays, des flux qui eux-mêmes alimentent la dette publique et la corruption et leur clientélisme. Ce modèle aujourd'hui est brisé, parce que même tous ces jeunes qui partent ne sont plus prêts à mettre leur économie au Liban, parce que le système bancaire est brisé, la confiance est brisée. Donc il faut absolument aujourd'hui un gouvernement qui puisse s'adresser à ces jeunes et leur donner une lueur d'espoir. Et c'est ça qui est, parce que la décision d'émigrer, évidemment, elle est imposée par des conditions immédiates, le nombre de fermetures d'entreprises, les faillites d'entreprises, la hausse du chômage et puis la baisse dramatique du pouvoir d'achat, avec une inflation qui atteint plus de 100%, c'est-à-dire que les prix ont doublé en quelques mois. Les Libanais, évidemment, les plus démunis n'arrivent plus à se nourrir, vous l'avez dit, plus de la moitié de la population est le seuil de pauvreté. Donc évidemment, dans ce contexte, le premier réflexe, c'est de se dire « je vais partir ». Mais ce qui empêche les gens de partir, c'est la perspective, c'est l'espoir. De si je m'accroche, je pourrais trouver. Or, aujourd'hui, et c'est ça qui est terriblement triste, c'est qu'il y a eu un moment où tout le monde a cru qu'il y avait l'avant et l'après 4 août, c'est-à-dire que le choc était tel que les choses ne pouvaient pas continuer comme avant. Or, malheureusement, quand on écoute les discours politiques des leaders communautaires, on a l'impression que c'est business as usual, que tout continue à se faire comme ça se faisait. Là, on nous parle d'un gouvernement d'union nationale, mais un jeune aujourd'hui, pendant la crise, toute cette période, on a eu des gouvernements d'union nationale. Donc si aujourd'hui on vient, on nous dit, on prend les mêmes et on recommence, il est certain que les gens n'auront d'autres choix. En tout cas, et c'est ça qui est peut-être dramatique, c'est ceux qui ont les moyens de partir, c'est-à-dire les jeunes qui sont éduqués, qui parlent une autre langue, qui ont des facilités à l'étranger, de trouver un emploi à l'étranger, vont partir. Et c'est très difficile de reconstruire économiquement un pays sans ingénieurs, médecins, architectes, enfin tout ce qui fait la force vive de ce pays. Et encore plus, enfin, parce que la crise économique, ça commence à faire un an quand même, et les conséquences sont assez dramatiques sur des secteurs clés que sont l'éducation, l'hospitalisation, le système de santé, donc c'est des, et la banque évidemment. Donc c'est des ressources humaines, c'est des jeunes avec des compétences qui partent et qui sont pas prêts de rentrer s'il n'y a pas immédiatement un gouvernement susceptible. Et on l'a vu en fait avec le gouvernement de Hassan Diab, il y a eu comme une les gens voulaient y croire, les gens ne demandent qu'à croire. Un jeune aujourd'hui a envie de rester au Liban, on a tous envie de rester, mais il faut qu'on nous donne une lueur d'espoir. Or cette classe politique là, ces dirigeants là, même si on met un gouvernement fantoche avec, comme on a fait, des technocrates, si on ne change pas radicalement le système, il n'y a pas moyen d'arrêter l'hémorragie.
Xavier Baron, je retourne vers vous dans cette partie-là de la Méditerranée, et pas seulement d'ailleurs, mais surtout là-bas, depuis l'antique Phénicie, fleurissent les théories du complot. On voit toujours la main de l'étranger, donc ça a été longtemps la France et le Royaume-Uni. Aujourd'hui, on voit que dans tout le Moyen-Orient, la ligne de fracture, c'est véritablement d'un côté l'Iran avec ses affidés, à commencer par la Syrie, et en face l'Arabie Saoudite, les Émirats et si j'ose dire Israël, avec ce rapprochement spectaculaire entre les Émirats et Israël. Jusqu'à quel point est-ce que cette théorie du complot sévit encore ou complique ou pourrit davantage encore la situation libanaise ?
La théorie du complot a été pratiquée pendant longtemps et pas seulement au Liban, mais on a vu pendant depuis les manifestations du 17 octobre, par exemple, que l'opposition du Hezbollah contre les manifestants s'est peu à peu dessinée, et puis il y a même eu des groupes qui sont intervenus contre les manifestants, et puis tout d'un coup, pourquoi s'opposer aux manifestants ? Parce que c'est un mouvement qui est piloté par les États-Unis. Donc là, on a retrouvé la théorie du complot. Tout ça, c'est une manœuvre américaine. Alors évidemment, dans le contexte international entre le Washington et Téhéran, tout ça finit par former un tout, un amalgame, et sans réalité, les manifestants libanais ne sont pas sponsorisés par les États-Unis, c'est évident. Mais dans la situation actuelle, la théorie du complot, c'est plutôt les influences étrangères qui pourraient jouer un rôle important. Bon, évidemment, il y a l'Iran avec le Hezbollah, et
qui est quand même un acteur majeur,
un acteur majeur. Mais ce qui est déplaisant dans ces théories du complot et dans le fait de dire que tout ce qui se passe au Liban, c'est une influence étrangère, enfin ce sont les complotistes qui le disent, c'est que ça laisse entendre que les populations sont incapables de réagir et de faire quoi que ce soit, et que tout ce qui se produit de toute façon vient de l'étranger, c'est l'étranger qui décide, donc on ne fait rien. Donc ça a un double aspect négatif, c'est que ça tendrait à décourager tous ceux qui, et ils sont nombreux, qui pourraient prendre les choses en main et qui pourraient eux-mêmes réagir et agir. Parce que
quel est le risque politique, selon vous, qu'encourt le président français quand il retourne mardi prochain à Beyrouth ? Il a demandé un nouveau projet politique. On comprend bien qu'en 3 semaines, ce projet politique ne s'est pas cristallisé. Il n'y a pas de miracle en la matière, et d'autant moins que nos amis, tout au long de cette émission, ont expliqué à quel point la situation était à la fois complexe et la crise profonde. Donc, quel est, selon vous, l'enjeu ? Comment est-ce que le président français peut échapper mardi prochain à une critique qui prouverait à la fois son incapacité à produire lui-même une solution et une autre critique qui consisterait à l'accuser d'en chercher une?
C'est une mission extrêmement difficile parce que depuis son dernier voyage, et comme je crois Dominique vient de le dire, rien ne s'est passé. Il y a eu le choc du 4 août et puis depuis, c'est des discussions à n'en plus finir pour former un gouvernement. Et puis les consultations pour former le gouvernement ne vont commencer que lundi prochain, dans trois jours. Donc c'est pour montrer l'indifférence de la classe politique et si on en ajoute à cela que ceux qui nettoient les rues, ce sont les habitants avec des pelles et des balais, on voit l'incapacité, l'incompétence de la classe politique qui face au drame aurait quand même pu se remuer. Donc le président.
Alors
Macron
on a vu que Saad Hariri, donc le qui a été longtemps Premier ministre, donc sunnite, en alliance avec le Hezbollah chiite, lui, qui était à nouveau sollicité, comme s'il pouvait représenter une solution de rechange, il a dit non. Donc là, on se tournerait quoi vers
Oui, il y a quelques noms. Le président va donc recevoir un certain nombre de députés qui vont donner des noms, qui vont proposer des candidats. Mais Saad Hariri, dans la mesure effectivement où c'était une solution de acceptable, Saad Hariri a renoncé parce que les conditions mises par les uns et les autres pour la formation d'un gouvernement lui ont dit c'est pas possible. Ça montre que la classe politique n'a rien compris à ce qui se passe et on en est toujours à imposer telle ou telle chose, telle personne à tel ministère, donc que, comme dit Dominique Adé, ce qu'il faut c'est un choc. Or malheureusement le choc, on voit pas comment il peut se produire parce que la classe politique, quel que soit le gouvernement, même si c'est un gouvernement de transition et d'urgence qui est formé, il va falloir qu'il ait l'investiture de la Chambre. Donc on se rend compte aux situations impossibles dans lesquelles on se trouve. Alors un gouvernement d'union nationale en plus, c'est déjà le cas finalement, puisque tout le monde est dans le gouvernement. Il n'y a pas d'opposition, puisque tout le monde est au sein du gouvernement. Ce qui veut dire que personne ne contrôle le gouvernement et que chacun se sert. Alors comment ce choc peut-il se produire, évidemment en écartant des solutions extrêmes de violence.
Bien sûr. Karim Émile Bitar, en écartant la violence, et il y en a eu. On a vu à un moment donné l'armée tirer sur les manifestants. On voit évidemment que dans les conditions d'élabrement dans certains quartiers de Beyrouth, pas seulement les quartiers pauvres, mais même Achrafieh, le quartier traditionnellement chrétien, la tension au quotidien est immense et il y a des gens qui ont faim. Est-ce que le plus grand danger, selon vous, Karim Émile Bitar, pour le pays, dans cette difficulté infinie à trouver une solution de rechange sur le plan politique, ce n'est pas en fait un tel accablement qu'au fond tout le monde renonce, y compris ce qu'on a coutume d'appeler la communauté internationale, et le Liban deviendrait une sorte de trou noir hors champ en quelque sorte.
Je crois qu'en effet, vous visez juste, il y a un sentiment d'aquabonisme, un sentiment de plus rien ne sert, nous avons tout essayé et de mener un peu la politique du chien crevé au fil de l'eau, de laisser ce pays à lui-même, de le livrer à son propre sort. Ce serait extrêmement risqué pour toutes les raisons que nous avons évoquées il y a quelques minutes. Le plus grand problème, c'est qu'en effet, nous avons une classe politique qui est extrêmement soudée. Ce qui m'a marqué ces deux dernières semaines, c'est la façon dont cette bande des six a fait bloc. Ils se sont accusés de toutes les turpitudes au cours des 15 dernières années, mais ils continuent de faire front commun face à cette société civile qui réclame le changement. On a vu le Hezbollah et le duo chiite, le Hezbollah et ses alliés insister pour que Saad Hariri soit de nouveau le Premier ministre, alors qu'il s'était quand même traité de tous les noms pendant une dizaine d'années. On a vu Saad Hariri se faire prier, mais quand même
même faire entendre qu'il ne dirait pas non à certaines conditions. Donc ce qui est absolument nécessaire, c'est ce que vient de dire Xavier Baron, c'est de se sortir de ce système des gouvernements d'union nationale, d'avoir enfin une alternance politique avec un gouvernement qui gouverne et une opposition qui fait son travail de contrôle du gouvernement, qui fait son travail de contre-pouvoir. Nous n'avons pas ça depuis la fin de la guerre, depuis les accords de Taïf. On a des gouvernements d'union nationale et des gouvernements qui sont des mini-parlements où tout le monde est représenté. Donc le temps est venu de repenser entièrement le système politique libanais, de repenser à la fois les institutions et de créer une nouvelle classe politique. L'opinion publique libanaise est mûre pour cela. Elle le réclame dans les rues depuis près d'un an. S'il y a aujourd'hui un peu moins de monde dans les rues, c'est un peu à cause du coronavirus qui a servi un peu de virus contre-révolutionnaire, en quelque sorte, qui a contraint les gens à se confiner. C'est un peu par cette situation d'accablement, d'avoir le sentiment que plus rien ne sert, que toutes les paroles tombent dans l'oreille de sourds. Mais je pense qu'il faut maintenir la pression, aussi bien la pression de la rue que la pression de la communauté internationale, pour forcer la main de cette oligarchie. Autrement, c'est une véritable menace existentielle qui pèse sur le Liban un siècle après sa naissance.
Et en quelques mots, quel serait selon vous le message le plus utile du président Macron mardi prochain au moment de la célébration de ce centenaire ?
C'est celui que les intervenants précédents ont martelé, la nécessité de créer un gouvernement indépendant qui serait doté de prérogatives législatives pour une période d'au moins 12 à 18 mois en attendant l'organisation d'élections législatives. Il est temps de créer un État libanais digne de ce nom et un lien direct entre les citoyens et l'État. Nous ne pouvons plus vivre assignés à résidence communautaire avec des leaders qui s'auto-proclament chef de leur communauté. Les Libanais ont le droit d'être des citoyens, de vivre dans une république et non plus dans une sorte de zoo et d'être considérés uniquement par leur appartenance de naissance. Ils se sont affranchis depuis le 17 octobre 2019 et ils exigent d'être considérés comme des individus et non plus comme des membres d'une communauté.
Merci, merci Karim Émile Bitar. Je rappelle que vous êtes membre de l'Institut de sciences politiques de l'Université Saint-Joseph à Beyrouth. Vous êtes aussi directeur de recherche à l'IRIS. Merci mille fois à vous, Dominique Aidé. Vous êtes romancière. Votre dernier ouvrage, Édouard Saïd, le roman de sa pensée, aux éditions La Fabrique en 2017. Merci Sahar Alattar, vous dirigez le magazine économique libanais Le Commerce du Levant. Kamel Mohana, docteur Mohana, président fondateur de l'association Amel International, coordinateur général du collectif des ONG arabes et libanaises. Bon courage pour la suite, bon courage à tous. Merci aussi bien sûr à Xavier Baron, qui vient de publier aux éditions Taillandier Le Liban en 100 questions. À la réalisation ce matin, Luc-Jean Reynaud, à la technique Déborah Dagobert, Hugo Boursier m'a aidé à préparer cette émission, je l'en remercie. Je vous informe que demain, l'Esprit public, dirigé de main de maître par Émilie Aubry, traitera à nouveau de la question libanaise, donc à la veille de la nouvelle visite à Beyrouth du président Macron. Et comme chaque samedi, voici bien sûr Hervé Gardette. Très bon week-end et à samedi prochain.